France Musique.
Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
Bonsoir Rodolphe.
Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque contemporain.
Avec une grande symphonie d'Elisabetta Brusa, un oratorio inspiré de l'Atlantide et une guérilla gay.
Mais avant, quelques éclats. Éclat, c'est la musique de Marc Monet par le pianiste François-Frédéric Guy. C'est le printemps des arts en ce moment à Monaco et il y a des concerts comme C'est pas la France dans la Principauté. On peut aller écouter de la musique en vrai. Le printemps des arts est dirigé depuis des années maintenant par le compositeur Marc Monet qui a lié une amitié musicale avec le pianiste François-Frédéric Guy. Amitié aujourd'hui scellée par la publication d'un très beau disque en pièces, soit 21 pièces pour piano. Énigmatique, virtuose, redoutable, poétique. Il y a quelque chose de schumannien aussi dans cette musique qui change si rapidement d'humeur. Côté piano, on est peut-être à mi-chemin entre les visions fugitives d'un Prokofiev et les notations d'un Pierre Boulez. Voici « Jeu d'eau », mais c'est de Marc Monet.
Thank you.
Pour moi, c'est un véritable défi physique de pouvoir enregistrer ces œuvres fulgurantes d'une difficulté technique considérable qui met l'interprète face à une expérience extrême d'attaque, rapidité, mais aussi d'extrême lenteur, confinant à une certaine neurasthénie et irrationalité que l'on doit essayer de traduire musicalement. C'est ce qu'écrit François-Frédéric Guy pour présenter ses œuvres de Marc Monet. Vous avez entendu à l'instant « Jeu d'eau ». En pièces, c'est le titre de ce recueil. En pièces, c'est un voyage dans les contrées inconnues qui met en alerte et en danger l'interprète et le public. Un disque passionnant et parfois provocateur. Extrême, c'est la musique de Marc Monet interprétée ici par François-Frédéric Guy. C'est notre disque du jour dans l'émission ce soir. Très beau disque, Le Printemps des Arts, qui est donc dirigé par Marc Monet. Thomas Vergrach l'avait reçu dans le Carrefour de la Création. Vous pouvez le réécouter. C'était le 7 mars dernier. Il était en compagnie de Bruno Mantovani, puisque c'est Bruno Mantovani qui va maintenant prendre la direction de ce célèbre festival pour la création.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier. France Musique.
Une compositrice maintenant, Elisabetta Brusa, une musicienne née en Italie en 1954. Elle a commencé ses études au conservatoire de Milan avant de les poursuivre en Angleterre avec Peter Maxwell Davis et Hans Keller. Et le label Naxos lui consacre une grande anthologie dont voici le quatrième volume. C'est une musicienne qui a écrit beaucoup pour l'orchestre. Et ici, on découvre sa deuxième symphonie créée en 2019. Elle explique qu'elle y a travaillé de manière intermittente pendant des années. Et elle est dédiée à son mari, professeur et chef d'orchestre Gilberto Serembe. L'écriture orchestrale, vous allez l'entendre, est riche et luxuriante avec des cuivres particulièrement présents. Une partition impressionnante, ça doit être très agréable à jouer pour les instrumentistes, ça s'écoute avec beaucoup de plaisir. Après, je dois vous avouer que si j'avais découvert cette pièce à l'aveugle, j'aurais jamais pu la dater, mais je crois que j'aurais pas parié sur du 21e siècle.
Vous voulez dire que ça sonne un petit peu ancien ?
Ça sonne un peu straussien par moment. Donc, écoutez, pourquoi pas ? Pas moderne, mais l'essentiel, c'est de prendre du plaisir à l'écoute, non ? C'est ce que je me suis
exactement,
dit finalement.
Exactement, j'espère à l'écriture pour
et
elle.
Oui, alors ça, j'en doute pas, parce que franchement, elle écrit très bien pour l'orchestre et sa musique procure beaucoup de plaisir. C'est le premier mouvement ici très cuivré de la deuxième symphonie d'Elisabetta Brusa.
Thank you.
Le premier mouvement de la deuxième symphonie d'Elisabetta Brusa par le Ulster Orchestra, dirigé par Daniele Rustinoni. Vous avez pris du plaisir quand même à l'écoute de cette œuvre.
C'est pas mal, mais du plaisir, vous allez aussi en avoir tout au long de la soirée, rassurez-vous. Puisque maintenant, on va écouter la musique de Julius Eastman. Est-ce que vous connaissez ce compositeur qui est mort à 49 ans aux États-Unis? Il laisse une œuvre impressionnante ancrée dans le courant minimaliste, avec un aspect politique très important. Julius Eastman, compositeur, pianiste, chercheur, danseur afro-américain, ouvertement homosexuel, c'est d'ailleurs ce qui va lui poser quelques problèmes. Il est l'un des premiers à avoir associé des éléments de musique pop à la musique minimaliste. Et dans ses pièces, il y a quelque chose de très radical contre le racisme, contre l'homophobie, entre musique contemporaine répétitive et disco naissante. C'est vraiment l'un des grands compositeurs des années 70, proche de l'école de New York, de John Cage et de Morton Feldman, mais avec sa voix à lui. Et il a été, je trouve, un peu mis de côté ces dernières années et on est bien content de découvrir aujourd'hui sa musique pour quatre pianos, Gay Guerilla. Vous allez entendre une œuvre très impressionnante. Vous savez, la fin de cet homme est assez tragique puisque on voit que ça n'a pas tellement changé. D'ailleurs, les policiers, à partir des années 80, vont persécuter son appartement et il va mourir dans une sorte d'abandon total et on le retrouvera mort à l'hôpital de Buffalo. Voici la musique de Julius Eastman. C'est un très beau disque avec quatre pianistes, Kay Schumacher, Patricia Martin, Bénédicte Terbrack et Mirella Zulali. On écoute Gay Guerilla. C'est la musique de Julius Eastman et c'est Gagaria, donc cette pièce pour quatre pianos. C'est un très beau disque, on découvre deux grandes œuvres qui font chacune une demi-heure. Il faut se plonger dans cette musique, ce qui demande aussi un investissement de la part des pianistes, de crier, de donner des signes, enfin, c'est vraiment toute une époque.
Ça donne envie en tout cas.
J'ai trouvé ça fascinant. Fascinant. Et pour tout vous dire aussi, j'en ai parlé à Katia et Marielle Labec, qui étaient donc carte blanche la semaine dernière dans le Carrefour de la Création. Je trouve que c'est une musique qui pourrait très bien leur aller. Mmh. Et elles ont le projet d'en donner une nouvelle version. Donc on attend ça avec beaucoup d'impatience également.
En piste contemporain. Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Un oratorio pour soprano, baryton, deux harpes, chœur et orchestre maintenant. C'est la nouvelle œuvre du compositeur néerlandais Robin de Raaf. Elle s'appelle Atlantis et elle a été achevée en 2016 avec un sous-titre qui est le suivant, In Memoriam Pierre Boulez. Robin de Raaf, il a rencontré le compositeur français lors d'une masterclass en 1995 et Boulez a tout de suite reconnu son talent. Il va l'encourager à continuer à composer. Pierre Boulez était un grand partisan du modernisme. Le modernisme s'est éteint avec lui, c'est ce qu'écrit Robin de Raaf, et Atlantis, donc ce serait l'île symbole du modernisme disparu en même temps que le compositeur français. Alors Pierre Boulez, c'est pas le seul à avoir inspiré l'œuvre de Robin de Raaf, c'est un peu une pièce tiroir, puisque l'inspiration est très vaste. Il cite par exemple un complexe aquatique abandonné et désaffecté à Rotterdam, mais aussi les vers d'un poème du britannique Hart Kane, des textes de Platon et des témoignages de survivants de tsunami. Nous partons de l'Antiquité avec Platon, qui décrit la chute de l'Atlantide, dit-il, pour atteindre les 20e et 21e siècles et aborder les problèmes actuels de réchauffement climatique. Il affirme que son œuvre n'est pas apocalyptique, car tant que le monde continue de tourner, il y a de l'espoir. En tout cas, c'est une écriture pleine de détails, riche et soignée. 160 choristes entourent les deux chanteurs, une œuvre qui impressionne et dont voici les premières minutes.
The pillars of Peripheries.
Atlantis, l'œuvre de Robin de Raaf avec le Netherlands Radio Philharmonic Orchestra dirigé par Marcus Stens, le chœur de la radio néerlandaise dirigé par Martina Batic et Marisol Montalvo et Mark Stone, un tout nouveau disque à découvrir donc.
Ça va être le journal de la création. Bonsoir Laurent Villarem.
Bonsoir.
Bonsoir Rodolphe, bonsoir Émilie. Alors le journal commence par un petit jeu. Excusez-moi, comment s'appelle le remplaçant de Julien Lepers dans Question pour un champion ?
Ah, Samuel Etienne.
Ah ben, je vois que vous regardez ça.
Non, mais il est très actif sur les réseaux sociaux, figurez-vous.
Alors je prends mon petit Bristol jaune et vous me dites si vous connaissez cette œuvre. Alors Émilie Rodolphe, est-ce que vous avez trouvé ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Rameau ?
Oui, tout à fait. Alors maintenant, j'aimerais que vous fassiez un effort d'imagination, car sur cet air de Rameau, on ajoute la musique électro de David Chalmin, qui est un partenaire privilégié des Sœurs Labeck. Et je vous demande un dernier effort d'imagination.
Là, c'est beau, là, c'est beaucoup de choses.
Vous mettez par-dessus encore la voix de Barbara Hannigan.
Ah oui, alors là, ça va être difficile qu'on imagine ce que c'est.
Eh bien, vous allez entendre, le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence propose un concert en streaming de Barbara Hannigan qui chante et dirige un programme intitulé « Du classique à l'électro ». Le programme est très varié, mais il y a donc une version électro de « Tristes après » et une autre relecture de David Chalmin sur une mélodie de Chausson. Moi, ça m'intrigue.
Ah oui, ouais, absolument.
Et la distribution réunit des étoiles telles que Renaud Capuçon, Bertrand Chamaillou et Lucienne Renaudin-Vary. À noter que Renaud Capuçon a donné il y a quelques jours une création de la jeune compositrice Élise Bertrand, toujours au sein du Festival de Pâques. Streaming du concert du classique à l'électro par Barbara Hannigan, ce lundi 5 avril à 20h30 sur le site du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Le 31 mars a été inaugurée la plateforme Hémisphère Son. Sa créatrice Sandrine Després-Maricot a créé une revue musicale dédiée aux musiques expérimentales, écrites ou improvisées. C'est une bonne nouvelle ?
Oui, complètement.
On y trouvera des actualités, des interviews et des portraits sonores. Parmi l'équipe éditoriale, on retrouve notamment Guillaume Kosmicki, David Sanson, Suzanne Gervais et Michel Tosi. Hémisphère Son aura également un versant artistique en passant commande à des compositeurs. Il faut soutenir cette belle initiative. Découvrez Hémisphère Son. Nous avons mis le lien vers la plateforme sur le site de l'émission. Parmi les streamings de la semaine, il y a tout d'abord le concert en ligne d'une odyssée de Benoît Menut sur le site de Musique à 13. On dirait que j'ai une obsession sur...
C'est ce que j'allais vous dire, quelle obsession pour Benoît Menut.
Mais également de Au clair d'un croissant de Noriko Baba, qui était la grande création du Festival Ensemble en septembre dernier. Émilie Rodolphe, j'ai plein de questions pour vous. Vous vous rappelez de ce que c'est, ce Festival Ensemble ?
Oui, oui, je voyais très bien en septembre. Ils avaient réuni plein d'ensembles différents, de 2M, Kern, Multilatéral. C'était une très belle initiative.
Et court-circuit aussi.
Et SIA. Voilà.
Et Noriko Baba, j'aime beaucoup sa musique.
Eh bien, écoutez, le lien de sa pièce est disponible sur le YouTube du Festival Ensemble. Mais je voudrais attirer votre attention sur le streaming de l'ensemble Sébarré, qui met en ligne un programme de création qui a l'air absolument génial. C'est mardi. Il y a 4 créations dirigées par Sébastien Boin, avec l'IRCAM et le GMEM de Marseille. Une de Michael Urquiza, une de Francisco Alvarado qui parle de robotique, une pièce de Giulia Lorusso qui imagine un environnement virtuel comme un jeu vidéo, je suis à fond, et une dernière de Francesca Verunelli sur des sirènes silencieuses.
Ah là, on est à fond aussi.
Ah, vous voyez. Streaming d'une odyssée de Benoît Menut sur le site de l'ensemble Musica 13, de Au clair d'un croissant de Noriko Baba sur le YouTube du Festival Ensemble, et streaming enfin du concert de l'ensemble Sébarré sur la chaîne YouTube de l'IRCAM Centre Pompidou.
Votre rubrique « Pourquoi composez-vous, Laurent ?»
Oui, cette semaine, on retrouve l'un de nos grands compositeurs, l'un des plus puissants aussi. Allez, on se met dans l'ambiance. C'est Inferno de Yann Robin, ici interprété par l'Orchestre National de Lille. Le mot dantesque n'est pas usurpé pour cette partition. Trois quarts d'heure majestueuse entre infrasons, détente et explosion sauvage. Yann Robin est l'un des compositeurs français les plus joués à l'étranger et il est aussi le directeur de l'excellent ensemble Multilatéral et il est avec nous ce soir. Bonsoir Yann Robin.
Bonsoir Laurent Villarem.
Alors j'ai une question pour vous. Pourquoi composez-vous ?
pourquoi je compose ? C'est une question que je me pose depuis très longtemps. Alors, pour y répondre assez rapidement, il y a d'abord une question de nécessité de faire. Je dirais une nécessité de passage à l'acte. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Giacometti qui dit, quand il est en train de sculpter, on le filme et on lui pose la question pourquoi il crée. Et il répond, c'est pour donner de la permanence aux choses qui passent. C'est très beau, donner de la permanence aux choses qui passent. Et pour moi, en quelque sorte, écrire, c'est revivre. Et c'est aussi défier la mort, aller au-delà de ce que peut être la mort. Voilà, et donc cette idée de composition, cette idée de nécessité de faire, elle m'habite complètement. Et quand on est dans un processus de création, de composition, que, en fait, on l'est tout le temps, ça peut nous amener jusqu'à une certaine forme d'obsession. D'obsession de toucher quelque chose, de réaliser quelque chose, d'aller au bout d'une chose, afin de l'extraire, en fait, des méandres de notre imagination et de lui donner vie. Voilà, il faut que cette chose-là, cette créature, en fait, qui est en nous quelque part, puisse prendre vie. Voilà, c'est une possibilité d'accès à la transcendance. Et je pense que cette chose-là, pour moi, ben, relèverait en quelque chose, si j'ose dire, presque du sacré.
Merci beaucoup, Yann Robin.
Je vous en prie.
Je voudrais terminer par un petit détour par Berlin. Le festival Mers Musik de Berlin s'est déroulé en ligne et il y a notamment la trilogie de la mort d'Eliane Radig, mixée par François Bonnet de l'Expérimental. Il y avait aussi un marathon Bang on a Can. Émilie Rodolphe, vous connaissez ce groupe new-yorkais fondé en 1987 par trois compositeurs, David Lang, Julia Wolf et Michael Gordon.
Oui,
absolument. Ouais. Mon préféré, c'est David Lang.
Ah, bah, moi, justement, c'est Julia Wolf.
Ben, moi, mon préféré, c'est Michael Gordon.
Ça tombe bien.
Donc, les marathons de Bang on a Can, c'est 4 ou 5 heures de musique qui mélangent tout. Les esthétiques et les formes, c'est fascinant. Et le festival Mers Musik a mis en ligne le direct. Ça dure 4h50 avec des interviews. Si on se fait reconfiner une bonne fois pour toutes, ça peut occuper. C'est des bons conseils de France Musique. Alors, pour terminer le journal, j'ai longtemps hésité avec lequel des trois fondateurs, entre Wolf, Lang et Michael Gordon.
Préféré.
Absolument. C'est vraiment une œuvre d'île déserte de Michael Gordon. Vraiment, prêtez l'oreille, c'est vraiment merveilleux. C'est une œuvre qui s'appelle Light is Calling, ici interprétée par la violoncelliste de Bang on a Can, Ashley Bassgate. Is Calling de Michael Gordon.
Merci beaucoup Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
Dans un vieux carton, vous le savez maintenant, Antoine Berland a retrouvé ses nombreuses cassettes, ses fameuses cassettes enregistrées lorsqu'il était enfant. Troisième volet avec une pièce de François Couperin arrangée pour saxophone et piano.
Les à propos.
Antoine Berland.
90 secondes de son lit.
Je crois que c'est bon là. Oui.
Les à propos.
C'est bon pour tout le monde.
Antoine Berland. Oui.
Thank you.
C'était Les À-propos avec cette cassette retrouvée numéro 3 d'Antoine Berland.
Merci à José Bernays, à Claire Lagarde qui réalise cette émission et Pauline Boisaubert.
Votre soirée se poursuit, nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi à 23h30. Vous allez entendre l'expérimental de François Bonnet. Mais on vous l'a dit, c'est une soirée spéciale Gérard Pesson à 23h, création mondiale de son solitaire Mikado. Et tout de suite, le compositeur et l'invité de Thomas Vergracht pour le Carrefour de la création. Belle soirée.
À réécouter sur francemusique.fr.